Chapitre 23. Lady Janet aux abois. Laissons un moment Julien et Mercy et montons aux régions supérieures de la maison pour suivre la marche des événements dans la chambre de Lady Janet. La femme de chambre a remis le billet de sa maîtresse à Mercy et est repartie pour remplir sa seconde commission auprès de Grace Roseberry dans le boudoir. Lady Janet était assise devant un petit bureau, attendant l'arrivée de celle qu'elle avait mandée en sa présence. Une seule lampe répandait sa douce clarté sur les livres, les tableaux, les bustes qui ornaient l'appartement, l'extrémité de la chambre où le lit était placé demeurait dans la pénombre. Toutes les œuvres d'art de Lady Janet étaient des portraits, tous les livres des exemplaires offerts par les auteurs. C'était un des caprices de Lady Janet de réunir dans sa chambre à coucher les souvenirs des personnes qu'elle avait connues dans sa longue existence, toutes plus ou moins distinguées. Beaucoup de ces personnes avaient déjà cessé de vivre. Lady Janet était donc assise près de son petit bureau, renversée sur sa chaise longue. C'était bien la réalisation vivante du tableau dont Julien avait esquissé la description à Mercy. Ses yeux étaient fixés sur une photographie de Mercy, précisément, qui était assez élevée sur un chevalier doré pour permettre à la vieille dame de la contempler sous la pleine lumière de la lampe. Le vieux visage si brillant et si noble de Lady Janet était tristement et étrangement changé. Le front était plissé, la bouche rigide, toute la physionomie aurait ressemblé à un masque moulé au moment de la crise que sa seigneurie traversait alors, et sous l'impression de rage qu'elle ressentait, n'eût été l'éclat et la vie que les yeux y répandaient encore. Il y avait quelque chose d'indiciblement touchant dans la tendresse ardente et altérée du regard qu'elle fixait sur ce portrait. Il y avait aussi une navrante expression de reproche. Le danger même, et Julien l'avait signalé avec sa sagacité ordinaire, était là. Cette affection profonde et blessée respirait dans les yeux de la vieille dame. Il parlait au portrait d'une si douce amitié profanée si cruellement et qui pourtant avait été sa seule joie, le seul espoir de la fin de la vie de Lady Janet. Le front de sa seigneurie n'exprimait rien que sa détermination absolue de supporter le naufrage de cette joie, de ranimer les cendres mortes de cette espérance. Ses lèvres affirmèrent éloquemment sa ferme résolution d'ignorer le présent odieux et de sauver le passé si cher. « Mon idole peut être brisée, mais personne ne saura que j'en souffre, » s'écria-t-elle. « Je serai sourde à toutes les paroles, je serai aveugle devant l'épreuve. À 70 ans, mon idole, c'est ma vie. Elle sera toujours mon idole. » Le silence qui régnait dans la chambre à coucher fut interrompu par le murmure de deux voix de femmes de l'autre côté de la porte. Lady Janet se redressa sur son siège et arracha la photographie de dessus le chevalet. Elle posa le portrait retourné au milieu des papiers entassés sur la table, puis, changeant tout à coup d'idée, elle le cacha parmi les plaies épais du fichu de dentelle qui couvrait son sein. Il y avait une immense tendresse dans ce mouvement subit. Les yeux de Lady Janet se mouillèrent. Une seconde après, Lady Janet avait remis son masque. Tout observateur superficiel qui l'aurait vu alors aurait dit « Voici une femme bien sèche ». La femme de chambre ouvrit la porte. Grace Roseberry entra. Elle s'avança rapidement, avec une assurance pleine de défis, la démarche empesée, la tête haute. Elle s'assit bruyamment sur la chaise que Lady Janet lui montra en silence et répondit au grave salut de sa seigneurie par un signe de tête et un sourire. Chaque mouvement et chaque regard de cette petite créature, fatiguée, hâve et mal vêtue, exprimait un insolent triomphe et disait aussi clairement que toutes les paroles « Mon tour est venu !»« Je suis charmée de me rendre auprès de votre seigneurie, » commença-t-elle, sans laisser à Lady Janet le temps de parler la première. « En vérité, j'avais trouvé qu'il était de mon devoir de vous demander une entrevue si vous ne m'aviez envoyé votre femme de chambre pour m'apprendre que c'était aussi votre pensée. » « Vous auriez trouvé qu'il était de votre devoir de me demander une entrevue ?» répliqua très tranquillement Lady Janet. « Pourquoi ?» Le ton dont fut prononcé ce dernier mot embarrassa Grace à l'instant. Il marquait une aussi grande distance entre Lady Janet et elle que si elle avait été enlevée de sa chaise par une force invincible et portée en chair et en os à l'autre extrémité de la chambre. « Je suis surprise que votre seigneurie ne me comprenne pas, » dit-elle, s'efforçant de cacher sa confusion, « surtout après m'avoir si gracieusement offert de mettre son propre boudoir à ma disposition. » Lady Janet demeura parfaitement calme. « Je ne vous comprends pas, en effet, » répondit-elle aussi tranquillement que jamais. Grace rassembla son plus méchant courage et recouvra l'assurance qui avait marqué son entrée en scène. « En ce cas, reprit-elle, il faut que j'entre dans quelques détails pour me justifier. Je ne puis trouver qu'une seule interprétation à l'étonnant changement de manière de votre seigneurie envers moi dans la salle basse il y a quelques moments. C'est que la conduite de cette abominable femme lui a enfin ouvert les yeux. Votre seigneurie conçoit la tromperie commise. Pour des raisons qui vous regardent et que je ne connais pas, vous n'avez pourtant pas encore voulu me reconnaître ouvertement. » Dans une situation aussi pénible que la mienne, quelque chose est dû cependant à ma fierté. Je ne puis ni ne veux permettre à Mercy Merrick de réclamer le mérite de m'avoir rendu de son propre mouvement ma place dans cette maison. Après ce que j'ai souffert, il m'est tout à fait impossible d'accepter cela. J'aurais sollicité une entrevue si vous ne m'aviez fait demander vous-même et mon dessein bien déterminé était de réclamer l'expulsion immédiate de cette personne hors du logis. Je la réclame maintenant comme une concession qui doit m'être faite. Quoi que vous, M. Julian Gray, puissiez faire, je ne lui permettrai pas sans résistance de se montrer sous les traits d'une repentie intéressante. C'est réellement un peu trop fort que cette aventurière effrontée se croie le droit de choisir son moment pour s'expliquer. C'est trop résolument outrageant de la voir sortir de la chambre, un clergyman de l'Église d'Angleterre lui ouvrant la porte, comme si elle faisait une chose qui me rendit son obligé. Je puis beaucoup pardonner, Lady Janet, même les termes dans lesquels vous avez pensé qu'il était décent naguère d'ordonner de me mettre hors de chez vous. Je suis toute disposée à accepter l'offre que vous m'avez faite ensuite de votre boudoir comme l'expression d'un retour bienveillant de votre part. Mais la charité chrétienne même a ses limites. La présence persistante de cette misérable sous votre toit et, vous me permettrez de le remarquer, non seulement une preuve vivante de votre faiblesse, mais une insulte pour moi. » Là, elle s'arrêta brusquement, non que les paroles lui manquassent, c'était l'auditeur qui faisait défaut. Lady Janet n'avait pas même l'air de faire attention à elle. Lady Janet, avec une impolitesse réfléchie, entièrement étrangère à ses habitudes ordinaires, s'occupait avec calme à arranger les divers papiers épars sur la table. Elle attachait les uns ensemble avec des petits morceaux de soie, elle plaçait les autres sous des presse-papiers ou dans le fantastique casier d'un petit nécessaire japonais. Elle travaillait avec la plus calme aisance à remettre de l'ordre autour d'elle et semblait parfaitement ignorante de la présence d'une seconde personne dans la chambre. Elle releva pourtant la tête, tenant toujours des papiers pleins les deux mains, au moment où Grace s'arrêta et lui dit tranquillement « Avez-vous achevé ? Est-ce que votre seigneurie m'a fait mander dans le but de me traiter avec cette impolitesse étudiée ?» riposta Grace hors d'elle-même. « Mon but, en vous envoyant chercher, était aussi de vous dire une chose que je dirai dès que vous m'en accorderez le loisir. » Le flegme imperturbable que témoignait cette réponse prit Grace tout à fait au dépourvu. Elle n'avait pas de riposte prête. Dans sa stupeur, elle attendait en silence, les yeux rivés sur la maîtresse de la maison. Lady Janet déposa ses papiers et s'arrangea confortablement sur sa chaise longue, se préparant à parler à son tour. « Le peu que j'ai à vous dire, fit-elle, doit être dit en forme de question. » « Suis-je dans le vrai, en supposant que vous n'avez pas d'emploi pour le moment et qu'une petite avance d'argent, délicatement offerte, serait pour vous chose très acceptable ? Est-ce que vous avez l'intention de m'insulter, Lady Janet ?»« Certainement, non. Je ne veux que vous faire une question. »« Mais votre question est une insulte. »« Ma question est un acte de bienveillance, si vous voulez bien la prendre comme elle est faite. » Je ne me plains pas, même, de ce que vous ne veuillez pas la comprendre. Je ne vous rends pas même responsable d'aucune des nombreuses fautes contre les bonnes manières et la bonne éducation que vous avez commises depuis que vous êtes dans cette chambre. J'avais honnêtement le désir de vous être de quelque utilité et vous avez repoussé mes avances. J'en suis fâché. Laissons ce sujet. » Et, toujours avec le calme le plus parfait, Lady Janet se remit à arranger ses papiers et parut redevenir tout à fait ignorante de la présence d'une seconde personne dans la chambre. Grace ouvrit les lèvres. Elle allait répliquer avec toute l'intempérance de la colère, mais, en y réfléchissant mieux, elle reprit son empire sur elle-même. Il était complètement inutile d'employer la violence avec Lady Janet Roy. L'âge et la position sociale de la vieille dame la défendaient de toute entreprise de ce genre. Elle le savait bien et elle y avait foi. Grace résolut donc de se replacer vis-à-vis de son ennemie sur le terrain banal de la politesse. C'était le meilleur terrain qu'elle pût aborder dans les circonstances présentes. Si quelque inconvenance m'est échappée, dit-elle, je demande à m'excuser auprès de votre seigneurie. Puis-je vous demander si votre seul but, en m'envoyant chercher, était de vous informer de mes affaires pécuniaires avec la pensée de me venir en aide ? C'était mon seul but, répliqua Lady Janet. Vous n'avez rien à me dire au sujet de Mercy Merrick ? Rien du tout. Je suis lasse d'entendre parler de Mercy Merrick. Avez-vous quelques autres questions à me faire ? J'en ai encore une. Oui, laquelle ? Je désire demander à votre seigneurie si elle se propose de me reconnaître en présence de toute la maison comme la fille du colonel Roseveret. Je vous ai déjà reconnue comme une dame qui se trouve dans l'embarras et qui a par conséquent des droits particuliers à ma considération et à ma patience. Si vous désirez que je répète ces paroles en présence de mes domestiques, tout absurde que ce soit, je suis prête à accéder à votre requête. » La violence du caractère de Grace allait reparaître. Elle commençait à perdre ses prudentes résolutions. « Lady Janet, s'écria-t-elle, cela ne se peut pas. Je dois vous demander de vous exprimer catégoriquement. Vous parlez de mes droits particuliers à votre patience. De quel droit voulez-vous parler ?» Il serait pénible pour toutes deux d'entrer dans plus de détails, répliqua Lady Janet. « Je déteste les détails. Évitons-les, je vous en prie. » J'y insiste au contraire, Lady Janet, et formellement. Vous avez tort. Grace demeura sourde à cette remontrance. Je vous demande nettement, poursuivit-elle, si vous reconnaissez que vous avez été trompée par une aventurière qui a pris ma place. Cette place, êtes-vous disposée à me la rendre dans cette maison ? Lady Janet retourna doucement à ses papiers. Est-ce que votre seigneurie refuse de m'écouter ? Lady Janet leva les yeux d'un air courtois et bienveillant. « Si vous persistez à revenir à votre folie, dit-elle, vous m'obligerez à ne point m'occuper de vous. »« Quelle est ma folie, s'il vous plaît ?»« Votre folie vient de se caractériser dans la nature même des questions que vous m'avez adressées. J'ajoute que c'est cette folie qui constitue votre droit particulier à mon indulgence. Vous ne pourriez rien dire ni rien faire qui pût ébranler ma patience. » Quand je vous ai rencontré pour la première fois dans la salle à manger, j'ai agi d'une façon tout à fait mauvaise, j'avais perdu mon sang-froid. J'ai fait pire encore, j'ai été assez irritée et assez imprudente pour faire demander un agent de police. Je vous dois toutes les réparations possibles, vous voyant affligée comme vous l'êtes, pour vous avoir traitée de cette façon cruelle. Je vous ai offert de vous servir de mon boudoir, c'était un commencement de réparation. Puis je vous ai envoyé chercher dans l'espérance que vous me permettrez de vous aider à vivre. Autre moyen d'expiation. Vous pouvez vous comporter impoliment à mon égard, vous pouvez parler dans des termes les plus injurieux de ma fille adoptive, je me soumettrai à tout, toujours comme expiation. Mais aussi longtemps que vous vous abstiendrez de toucher à un sujet aussi pénible, je vous écouterai avec le plus grand plaisir. Si vous revenez à ce sujet, je retournerai à mes papiers. Grace regarda Lady Janet avec un méchant sourire. « Je commence à comprendre votre seigneurie, dit-elle. Vous rougiriez de reconnaître que vous avez été grossièrement trompé. Votre seule ressource est d'ignorer ce qui est arrivé. Oh, comptez désormais sur ma patience. Je ne suis pas du tout offensé, je m'amuse. Ce n'est pas tous les jours qu'une dame de haut rang se rencontre ainsi, le fond du cœur à découvert, devant une femme obscure comme moi. Votre bon vouloir envers la pauvre affligée date, à ce que je présume, du moment où votre fille adoptive vous a donné l'exemple en faisant sortir de la chambre l'agent de police qui venait pour m'emprisonner. Le calme de Lady Janet était à l'épreuve d'un pareil assaut. Elle accepta gravement cette nouvelle question de Grace comme une demande qui lui aurait été faite de parfaite bonne foi. « Je ne suis pas du tout surprise, répliqua-t-elle, de voir que l'intervention de ma fille adoptive l'est exposée à de fausses interprétations. Elle aurait dû me consulter en particulier avant d'intervenir dans ce fâcheux débat. Mais elle a un défaut, elle est trop vive. Je n'ai jamais, dans toute ma carrière, rencontré une personne ayant autant de spontanéité de cœur. La seule apparition de l'agent de police vous avait mise dans une position qui faisait appel à sa compassion » Et, comme toujours, elle s'est laissée entraîner par ses sentiments. Elle s'occupe toujours trop des autres, elle s'oublie trop elle-même. C'est ma faute, tout est ma faute. » Une fois encore, Grace changea de ton. Elle était assez intelligente pour s'apercevoir que Lady Janet la battait avec ses propres armes. « Fort bien, dit-elle, mais il est temps de revenir aux gens sérieux. Votre fille adoptive, comme vous l'appelez, c'est Mercy Merrick. Et vous le savez. » Lady Janet reprit ses papiers. « Je suis, moi, Grace Roseberry, dont elle a volé le nom, et vous le savez aussi. » Lady Janet prit sur la table des fils de soie. Grace quitta sa chaise. « J'accepte votre silence, Lady Janet, fit-elle, comme un aveu de votre ferme intention d'étouffer la vérité. Vous êtes évidemment résolu à traiter cette aventurière comme la véritable Grace Roseberry, et vous n'hésitez pas à envisager les conséquences de cette abominable conduite. Vous entendez bien soutenir que je suis folle, et vous osez me le dire en face. Je ne permettrai pas qu'on me frustre ainsi de mes droits. Vous entendrez encore parler de moi, madame, quand le courrier du Canada arrivera en Angleterre. » Elle se dirigeait vers la porte. Cette fois, Lady Janet répondit aussi volontiers et aussi explicitement qu'il était possible à Grace de le désirer. « Je refuserai de recevoir vos lettres, » dit-elle. Grace revint sur ses pas d'un air menaçant. « Mes lettres seront suivies de mes témoins, » continua-t-elle. « Je refuserai de recevoir vos témoins. Vous refuseriez à vos risques et périls. J'en appellerai à la justice. » Lady Janet sourit. « Je ne prétends pas en savoir bien long là-dessus, dit-elle, mais je serais vraiment très étonnée si je découvrais que vous avez contre moi quelques droits que la justice puisse appuyer. Cependant, supposons que vous réussissiez à la mettre en mouvement. Vous savez aussi bien que moi que le seul pouvoir efficace en une pareille affaire, c'est l'argent. Je suis riche, honoraire, frais et tout le reste sont choses qui ne m'importent guère. » Vous demanderai-je si vous avez les mêmes armes à votre disposition ? Cette question rendit Grace silencieuse. Si elle avait de l'argent ? Mais elle était littéralement à bout de ses ressources. Ses seuls amis étaient ses amis du Canada. Après ce qu'elle avait dit à Julian Gray dans le boudoir, il était absolument inutile de faire appel à la sympathie du jeune ecclésiastique. Ah, l'argent ! L'argent ! Elle n'en avait ni pour se venger, ni même pour vivre. C'est ce que sa seigneurie savait parfaitement. Lady Janet lui montra la chaise. « Voulez-vous vous asseoir ? » lui dit-elle. « Le cours de notre entretien semble nous avoir amenés à la première question que je vous ai adressée au moment où vous êtes entrée dans cette chambre. Ne me menacez plus de la justice et permettez-moi au contraire de vous servir. » J'ai l'habitude de venir en aide à bien des dames dans l'embarras et personne n'en sait rien, excepté mon intendant qui tient mes comptes et moi-même. Une fois encore, laissez-moi vous demander si une petite avance, offerte délicatement, serait acceptée par vous. » Grace revint doucement à la chaise qu'elle avait quittée, mais sans songer encore à s'asseoir. Une de ses mains serrait le dossier de cette chaise et ses yeux étaient fixés avec une expression d'ironie sauvage sur le visage de Lady Janet. « Enfin, votre seigneurie se démasque, dit-elle. Vous voulez payer mon silence. »« Vous allez encore me renvoyer à mes papiers, répondit Lady Janet. Que vous êtes opiniâtre !» La main de Grace serrait de plus en plus fort le barreau de la chaise. Sans témoin, sans ressources, sans refuge, la brutalité de son langage et de ses manières, ne lui laissant rien espérer des sympathies des autres, le sentiment de son isolement et de son impuissance la rendit vraiment folle pour un moment. Une femme plus délicate et plus fière aurait à l'instant quitté la chambre. Grace n'avait que de l'orgueil et son esprit violent et étroit la poussait encore à braver son adversaire et le sort même. Une dernière et bonne vengeance, à laquelle Lady Janet s'était exposée d'elle-même, demeurait encore à sa portée. « Pour le présent, pensa-t-elle, il n'y a qu'un moyen d'être parfaitement avec cette femme. Je puis lui arracher une grosse somme, elle sera satisfaite et se croira bien délivrée. « Ayez quelque indulgence pour moi, dit-elle, je ne suis pas si opiniâtre. Je suis seulement un peu embarrassée d'avoir à lutter contre l'audace d'une dame de haut rang. J'apprendrai à vivre avec le temps. Mon langage est, je le reconnais avec peine, du pur anglais seulement. Permettez-moi de le mettre de côté et de lui substituer le vôtre qui m'était inconnu jusqu'à cette heure. Quelle avance votre seigneurie est-elle délicatement disposée à m'offrir ? » Lady Janet ouvrit un tiroir et en tira un livre de chèques. L'instant du soulagement était enfin venu pour la vieille dame. La seule question qui restait à discuter était évidemment la question de la somme à offrir. Lady Janet réfléchit un peu. Il lui parut que c'était aussi et surtout une question de conscience. Son amour pour Mercy et son dégoût pour Grace, son horreur de voir souiller celle qu'elle aimait et profaner son affection par un scandale public, l'avaient entraînée, cela n'était pas discutable, à traiter durement une femme malheureuse et humiliée. Si haïssable que pût être Grace Roseberry, son père, à ses derniers moments, l'avait confiée aux soins de Lady Janet avec le plein assentiment de celle-ci. Sans Mercy, elle aurait été admise chez Lady Janet Roy comme dame de compagnie avec un traitement de 100 livres par an. De notre côté, combien de temps, avec un caractère semblable à celui qu'elle avait révélé, Grace serait-elle restée auprès de sa protectrice ? Selon toute probabilité, elle aurait été congédiée au bout de très peu de semaines, gratifiée de son salaire d'une année comme compensation et pourvue d'une recommandation lui permettant de trouver un emploi convenable. Mais à présent, une compensation supérieure était de toute justice. Lady Janet décida que le montant de 5 années de traitement remis de suite et la promesse d'une protection ultérieure représentaient ce qui était dû au souvenir du colonel Roseberry et constituerait une reconnaissance pécuniaire vraiment libérable de tous les mauvais traitements que Grace pouvait avoir endurés depuis son apparition dans la maison. En même temps, et pour la plus ample satisfaction de sa propre conscience, Lady Janet résolut de découvrir quelle somme Grace elle-même considérait comme convenable. Il fallait donc amener la jeune fille à proposer elle-même les termes de la transaction. « Il m'est impossible de vous faire une offre, dit-elle, par cette raison que votre besoin d'argent dépend de vos projets futurs. Or, je suis absolument ignorante de vos projets. » « Votre seigneurie aura peut-être la bonté de me donner un conseil, » dit Grace toujours ironiquement. « Il ne m'appartient pas de vous donner positivement aucun conseil, » répliqua Lady Janet. « Je puis seulement supposer que vous feriez bien de ne point demeurer en Angleterre où vous n'avez pas d'amis. De plus, si vous invoquez la justice contre moi, vous éprouverez certainement la nécessité de communiquer personnellement avec vos amis du Canada. Ai-je raison ?» Grace n'eut aucune peine à comprendre ce que cela voulait dire. Bien interprétée, cette réponse signifiait « Si vous acceptez une compensation en argent, il est entendu comme contrepartie du marché que vous ne resterez pas en Angleterre pour m'ennuyer. » « Votre seigneurie a tout à fait raison, dit-elle. Je ne resterai certes pas en Angleterre. Je consulterai mes amis et… » Elle ajouta mentalement « Et je vous mènerai ensuite devant la justice, si cela m'est possible, avec votre argent. » « Vous retournerez donc au Canada, continua Lady Janet, et vos projets seront probablement un peu vagues au début. Prenant ceci en considération, à quelle somme estimez-vous l'assistance pécuniaire que vous accepteriez de moi ?»« Dois-je compter sur la bonté de votre seigneurie pour me redresser si par hasard mes calculs pouvaient m'être préjudiciables ?» demanda innocemment Grace. « Je suis très ignorante. » Cette fois encore, ces mots bien interprétés avaient une signification qui leur était propre. Il est stipulé, de mon côté, pensait Grace, que je me mets moi-même aux enchères et que mon rôle est de mettre peu d'abord pour que sa seigneurie mette davantage. Lady Janet l'avait bien deviné. La vieille dame fit un signe d'assentiment et attendit. Grace commença gravement. « Je crains d'avoir besoin de plus de 100 livres, dit-elle. » Lady Janet couvrit cette première enchère. « Je le crois aussi. Peut-être de plus de 200 livres. » Lady Janet couvrit également cette seconde enchère. « Probablement, dit-elle. De plus de 300 livres, 400, 500. » Lady Janet fit un geste. « Ce sera 500 livres, dit-elle. » En dépit d'elle-même, la rougeur monta au visage de Grace et trahit son émotion. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait été habituée à voir les shillings et les pièces de sixpence considérées avec une tristesse jalouse avant qu'on ne s'en dessaisît. Elle n'avait jamais vu en la possession de son père beaucoup plus que 5 souverains d'or à la fois, non grevés de dettes criardes. L'atmosphère dans laquelle elle avait vécu et respiré était l'atmosphère étouffante d'une pauvreté comme il faut. Rien n'était moins édifiant à voir que l'impatience avide de ses yeux regardant Lady Janet, car elle doutait encore que Lady Janet fût réellement sérieuse en voulant lui donner 500 livres d'un trait de plume. Lady Janet écrivit le chèque en un instant et le lui tendit par-dessus la table. Les yeux brûlants de Grace dévorèrent cette ligne d'or, « Payez à moi-même ou au porteur 500 livres » et vérifièrent la signature qui était au-dessous, « Janet Roy ». Elle était sûre de l'argent si elle voulait le prendre. La mesquinerie ordinaire de son caractère prit le dessus. Elle hocha la tête et laissa le chèque sur la table, s'inquiétant fort peu en apparence de le prendre ou de ne pas le prendre. « Votre seigneurie ne pense pas que je vais me précipiter sur ceci, » dit-elle. Lady Janet se renversa sur son siège et ferma les yeux. La seule vue de Grace Roseberry la rendait malade. Son esprit se remplit soudain de l'image de Mercy. Il lui tardait de réjouir encore ses yeux de la vue de cette merveilleuse beauté, de remplir encore ses oreilles de la mélodie de cette douce voix. « Je demande le temps de réfléchir. C'est ce que je dois à ma propre dignité, » continua Grace. Lady Janet fit un signe d'ennui. Elle lui accordait, d'ailleurs, le temps de réfléchir. « Je pense que le boudoir de votre seigneurie est toujours à ma disposition. » Lady Janet accorda silencieusement le boudoir. « Et que les domestiques de votre seigneurie sont à mes ordres si j'ai besoin d'eux ?» Lady Janet bondit sur son siège. « Et pourquoi toute la maison ne serait-elle pas à vos ordres ? » s'écria-t-elle furieuse. « Ah, laissez-moi !» Grace ne se trouva point blessée. Elle se sentit plutôt satisfaite, car c'était enfin un triomphe que d'avoir amené Lady Janet à une explosion si manifeste de colère. Elle posa aussitôt une autre condition. « Dans le cas où je me déciderais à accepter ce chèque, dit-elle, je ne puis, par dignité, accepter qu'il me soit remis autrement que fermé. Votre seigneurie sera assez bonne pour le mettre sous pli si cela est nécessaire. Je vous salue. » Elle se dirigea lentement vers la porte, regardant de côté et d'autre, d'un air de suprême dédain, les trésors artistiques sans prix qui décoraient les murailles. Ses yeux tombèrent fièrement sur le tapis dont le dessin était l'œuvre d'un peintre français célèbre. Il semblait que ses pieds fissent acte de condescendance en voulant bien s'y poser. L'audace avec laquelle elle avait fait son entrée dans la chambre avait été singulière. Elle n'en diminua rien en sortant, mais au contraire, elle redoubla d'insolence. Au moment où la porte se referma derrière elle, Lady Janet se leva. Indifférente au froid extérieur par ce rude jour d'hiver, elle se jeta à une fenêtre et l'ouvrit. « Pouah ! » s'écria-t-elle avec un frisson de dégoût. « L'air même de cette chambre en est empesté !» Puis elle retourna sa chaise longue. Son humeur changea encore une fois. Encore une fois, son cœur était avec Merci. « Oh, mon amour » murmura-t-elle, « à quel point me suis-je abaissée ? Me suis-je assez misérablement dégradée moi-même ? Et tout cela pour vous ?» Que d'amertume dans ce regard jeté en arrière ! Mais l'énergie naturelle de Lady Janet la ramena bientôt à un nouvel élan de défi et de courage. « De quoi se plaint cette misérable ? » s'écria la vieille dame. « Tout ce que Merci lui a fait, elle le mérite. » Quant à Merci, personne dans cette maison ne dira qu'elle m'a trompée. Elle ne m'a pas trompée elle-même. Qu'est-ce que cela fait qu'elle ne m'ait pas donné son vrai nom ? Elle m'a donné son cœur. Quel droit Julien a-t-il de se jouer de ses sentiments et de scruter ses secrets ? Ma pauvre enfant, tentée et torturée, je n'écouterai pas sa confession. Elle ne dira pas un mot de la vérité à d'autres. Je suis la maîtresse, je le lui défendrai. Elle prit vivement une feuille de papier à lettres dans le tiroir, puis, hésitant encore, elle la rejeta sur la table. « Pourquoi ne pas envoyer chercher ma chérie » pensa-t-elle. « Pourquoi écrire ? Non, je ne puis me fier à moi. Je n'ose pas encore la voir. » Elle reprit un morceau de papier et écrivit son second message à Merci. Cette fois, le billet commençait par une formule tendre et familière. « Ma chère enfant !» J'ai eu le temps de réfléchir et de me calmer un peu depuis que je vous ai écrit pour vous prier de retarder l'explication que vous m'avez promise. Je comprends parfaitement et j'apprécie les motifs qui vous ont conduite à vous interposer comme vous l'avez fait en bas. Et maintenant, je vous demande d'abandonner tout à fait cette explication. Elle serait, j'en suis sûre, pénible pour vous, et cela par bien des raisons dans lesquelles je n'ai nul désir d'entrer. À quoi bon produire la personne dont vous parlez ? Je suis lasse de tout cela. Il n'y a désormais aucun besoin pour vous d'expliquer quoi que ce soit. L'étrangère, dont les visites ici vous ont causé tant de peine et d'inquiétude, ne nous importunera plus. Elle quitte l'Angleterre de son plein gré après un entretien avec moi et j'ai parfaitement réussi à la calmer et à la satisfaire. Pas un mot de plus, ma chère. Ni à moi, ni à mon neveu, ni à personne, sur ce qui est arrivé aujourd'hui dans la salle à manger. Quand nous nous reverrons bientôt, qu'il soit entendu entre nous que le passé est désormais, pour toujours, enseveli dans l'oubli. Cela est non seulement ma très sérieuse prière, c'est, si cela est nécessaire, l'ordre formel de votre mère et amie, Janet Roy. P.S. Je trouverai l'occasion de parler séparément à mon neveu et à Horace Holmcroft avant que vous ne quittiez votre chambre. Ne craignez aucun embarras quand vous retournerez avec eux. Je ne vous demande pas de me répondre par écrit. Dites oui à la femme de chambre qui vous portera ce billet et je saurai que nous nous comprenons toutes les deux. » Après avoir cacheté cette lettre, Lady Janet y mit l'adresse ordinaire. À Mademoiselle Grace Roseberry. Elle allait se lever pour sonner lorsque la femme de chambre parut avec un message du boudoir. Le ton et le regard de cette femme montraient clairement que Grace lui avait adressé ses insolentes revendications aussi bien qu'à sa maîtresse. « S'il vous plaît, Milady, la personne d'en bas désire... » Lady Janet, fronçant le sourcil, interrompit la messagère dès le début. « Je sais ce que la personne d'en bas désire. Elle vous a envoyé me demander par une lettre. »« Oui, Milady. »« Rien de plus. » »« Elle a également envoyé un des valets de pied lui chercher un fiacre, Milady. »« Si votre seigneurie avait seulement entendu sur quel ton elle lui a parlé. » Lady Janet lui signifia d'un geste qu'elle ne voulait pas en apprendre davantage. Elle renferma le chèque dans une enveloppe sans adresse. « Portez-lui cela, dit-elle, et revenez près de moi. » Refusant à Grace Roseberry de s'occuper plus longtemps d'elle, Lady Janet s'assit, tenant à la main la lettre qu'elle venait d'écrire à Merci et réfléchissant sur sa position et sur les efforts que tant d'embarras exigeraient encore d'elle. Poursuivant ses réflexions, elle vint à penser qu'un hasard pourrait mettre Horace et Merci en présence au premier moment et que, dans l'état actuel de son esprit, Horace insisterait certainement pour obtenir une explication. Or, Lady Janet avait juré que des explications, il n'y en aurait point. Mais cette rencontre serait un désastre. Lady Janet en frémissait encore quand la femme de chambre rentra. « Où est M. Holmcroft ? » demanda-t-elle. « Je l'ai vu ouvrir la porte de la bibliothèque, Milady, tout à l'heure, à l'instant où je remontais. » « Était-il seul ?»« Oui, Milady. Allez le trouver et dites-lui que j'ai besoin de le voir tout de suite. » La femme de chambre courut exécuter cette seconde commission. Lady Janet se leva avec indifférence et ferma la fenêtre qui était demeurée ouverte. Son impatience de s'assurer d'Horace et de l'empêcher de voir Mercy la possédait à ce point qu'elle quitta la chambre et se rendit au-devant de la femme de chambre dans le corridor. Horace se faisait excuser. Milady lui renvoya sur-le-champ sa réponse péremptoire. « Dites-lui qu'il m'obligera d'aller à lui s'il refuse de venir à moi. »« Ah, attendez !» ajouta-t-elle, se souvenant de la lettre non remise. « Envoyez-moi la femme de chambre de Mademoiselle Roseberry. J'ai besoin d'elle. » Demeurée seule encore une fois, Lady Janet alla et vint deux ou trois fois d'un bout à l'autre du corridor, puis, soudain ennuyée de cette promenade, rentra dans son appartement. Les deux femmes de chambre revinrent ensemble. L'une ayant annoncé qu'Horace se soumettait et allait venir, fut congédiée. Milady envoya l'autre à la chambre de Mercy avec sa lettre. Une minute ou deux après, cette dernière revint. Elle avait trouvé la chambre vide. « Avez-vous quelque idée de l'endroit où peut se trouver Mademoiselle Roseberry ?»« Non, Milady. » Lady Janet réfléchit encore un moment. Si Horace se présentait promptement, elle serait sûre d'avoir réussi à le séparer de Mercy. S'il tardait, ce retard était suspect, mais Milady était décidée à aller de sa personne à la recherche de Mercy dans les appartements de réception du rez-de-chaussée de la maison. « Qu'avez-vous fait de la lettre ? » demanda-t-elle. « Je l'ai laissée sur la table de Mademoiselle Roseberry, Milady. » « Très bien, restez à portée de la sonnette pour le cas où j'aurais encore besoin de vous. » Une minute ne s'était pas écoulée que l'attente de Lady Janet avait pris fin. Elle entendit un coup frappé à la porte par une main d'homme. Horace entra vivement dans la chambre. « Qu'est-ce que vous me voulez, Lady Janet ? » demanda-t-il assez disgracieusement. « Asseyez-vous, Horace, et vous le saurez. » Horace n'accepta pas cette invitation. « Excusez-moi, dit-il, si je vous avertis que je suis un peu pressé. »« Pourquoi êtes-vous pressé ?»« J'ai mes raisons pour désirer de voir Grace aussi vite que possible. »« Et moi, j'ai mes raisons, répliqua Lady Janet, pour désirer vous parler au sujet de Grace avant que vous ne la voyiez, des raisons sérieuses. Asseyez-vous donc. » Horace tressaillit. « Des raisons sérieuses, répéta-t-il, vous m'étonnez. Je vous étonnerai encore bien davantage tout à l'heure. » Leurs regards se croisèrent. Horace remarqua dans la vieille dame des symptômes d'agitation qu'il ne lui avait jamais vus. Son visage se rembrunit avec une expression de soudaine méfiance et il prit un siège en silence.